propos général du film à travers lequel j'ai essayé d'expliquer qu'il ne suffisait pas de donner à un peuple des textes de loi si les mentalités ne suivaient pas. Et c'était exactement ça, parce que comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, le code du statut personnel était quand même un peu trop d'avant-garde à cette époque, et nous avons mis presque une cinquantaine d'années pour dépasser certains préjugés, certains tabous, des idées machistes en Tunisie, et vient la révolution avec tous les espoirs que nous avons investis pour pouvoir améliorer cette situation et pour dire à quel point on ne s'attendait pas à toutes ces suggestions de marche arrière que certains esprits rétrogrades essayent aujourd'hui d'imposer à la société tunisienne par un projet de société importé d'ailleurs, et qui n'a rien à voir avec notre identité tunisienne. Et moi, c'est cette identité que je revendique tout le temps, parce que cela ne veut pas dire que je rejette totalement mon identité arabo-musulmane, mais elle n'est qu'une des composantes de cette identité tunisienne. Et aujourd'hui, tous les débats qui détournent absolument les gens des véritables raisons pour lesquelles la révolution a eu lieu, c'est ce faux débat autour de cette sacrée sainte identité arabo-musulmane. Donc, excusez-moi, j'ai besoin d'abord de boire. Donc, je disais que c'était surtout pour détourner le véritable problème pour lequel la révolution a eu lieu, qui sont des problèmes essentiellement sociaux et économiques, et qui, au lieu d'être améliorés aujourd'hui, se retrouvent aggravés par un taux de chômage qui augmente de plus en plus et une cherté de la vie qui rend justement la vie de plus en plus difficile pour le peuple tunisien. Quant à la Constitution, puisqu'il faut parler de la Constitution, le premier brouillon que nous avons présenté au début du mois d'août présentait évidemment énormément de lacunes, énormément de mésententes, et notamment je sais que la polémique autour du problème de la femme et de l'article 27 qui parlait de complémentarité et non pas d'égalité et qui a suscité un grand remous à l'intérieur de la Tunisie et même à l'extérieur de la Tunisie. Nous nous en sommes débarrassés puisque le mot complémentarité a été enlevé de ce fameux article 27 qui est devenu d'ailleurs l'article 35 je crois ou 36 et qu'on s'est retrouvé avec l'article 5 dans le préambule et les conditions générales et qui lui parle d'égalité entre citoyens et citoyennes. Et ça, moi, je pense que c'est un point très, très positif que nous avons pu obtenir. Nous avons aussi obtenu le principe que dans toute la Constitution, chaque fois qu'on parle de citoyens, on parlerait aussi de citoyennes et que si cela s'avère un peu lourd par rapport à la langue arabe, nous mettrons un petit nota bene en début ou en fin de Constitution pour expliquer que chaque fois qu'on parle de citoyens, cela sous-entend évidemment citoyennes aussi. Donc, ce deuxième brouillon qui est l'aboutissement du premier, plus plusieurs rectifications qui sont venues à la suite de recommandations faites par la fameuse commission de coordination qui, dont le rédacteur en chef est le non moins fameux M. Habib Khadr du parti majoritaire. Et donc, moi, je pense qu'entre les deux versions, les choses ont pas mal évolué, même si le texte reste encore à parfaire énormément. Entre autres, le mot « criminalisation » a été aboli complètement de cette constitution. Nous ne parlerons plus de la criminalisation de l'atteinte au sacré, mais c'est l'État qui se trouve responsable de protéger la liberté de culte, les lieux de culte et le sacré aussi. Je ne sais pas comment il va se débrouiller l'État, mais c'est son problème. Nous ne parlerons plus non plus de criminalisation, de collaboration avec l'État d'Israël, mais nous parlerons plutôt de solidarité avec les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur liberté. Et il y a aussi quelques autres nouveaux concepts qui seront introduits suite aux amendements qui ont été proposés à travers les séances plénières, proposés donc par les élus, et aussi, chose que j'estime très positive et très révolutionnaire, nous avons organisé pendant un mois et demi, tous les week-ends, des consultations avec la société civile à travers les 27 gouvernorats de la Tunisie et les circonscriptions à l'extérieur, notamment en France. Et je crois aussi qu'il y en a eu une ici en Belgique. Donc de tout cela, nous sommes en train maintenant de réétudier la chose dans les commissions concernées pour toujours dans l'espoir d'améliorer et d'aller de plus en plus vers ce que les gens réclament le plus. Et quand je dis les gens qui me concernent, c'est bien sûr la partie démocrate et progressiste des citoyens tunisiens qui, entre autres, insistent énormément pour que la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme soit très spécifiquement inscrite dans le préambule, ce qui n'est pas le cas maintenant, puisque pour nos amis du parti majoritaire, cette déclaration, encore une fois, insinue une totale égalité entre l'homme et la femme, et ce qui n'est pas encore très très évident pour eux, surtout que dès qu'on touche à la notion d'égalité, l'esprit va chercher cette éternelle problématique de l'égalité au niveau de l'héritage. Et c'est ça ce qui bloque. Et vous savez que une des inquiétudes que nous avons maintenant, c'est une remise en question par rapport aux traités internationaux que la Tunisie a signés, et notamment la CEDAW, puisque la Tunisie, qui a ratifié ça en 85, avait émis une réserve sur l'article 16. Et cette réserve a été levée quelques mois après la révolution, à la fin des dernières journées de l'exercice du gouvernement provisoire de Bejekhaet Sepsi, ce qui était d'ailleurs une suite logique par rapport aux revendications révolutionnaires de l'ensemble du peuple tunisien. Mais aujourd'hui, il y a même à l'intérieur de l'ANC des gens qui, s'appuyant sur l'article... l'article 15 de la nouvelle qui dit « Le respect des traités internationaux est obligatoire tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente Constitution ». Or, cette présente Constitution, rien que dans son préambule, nous rappelle par trois fois notre identité arabo-musulmane qui interdit justement l'égalité total entre l'homme et la femme, particulièrement en matière d'héritage. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui pensent, qui rêvent, qu'ils vont pouvoir remettre en question certains traités, même si la Tunisie les a signés depuis des années et des années. Donc, la complémentarité, j'ai parlé de ça. Il y a aussi, j'ai parlé de cet article qui prône l'égalité entre les citoyens et les citoyennes, mais dans la langue arabe, il y a une nuance. On parle de « devant la loi ». Ça veut dire, quand un homme et une femme se présentent devant un juge, ils sont traités de la même manière. Mais qu'est-ce qu'on pratique sur eux comme loi? Nous, on aurait préféré, ou on va se battre pour cela, pour remplacer le mot « devant » par la loi ou selon la loi. Et la nuance est de taille, parce qu'on peut traiter de la même manière un homme et une femme en les respectant devant la justice, etc. Mais si on n'applique pas les mêmes règles de loi sur un homme et sur une femme, l'inégalité continuerait à persister. C'est ce genre de nuance auquel il faut faire attention. La charia maintenant, j'aimerais dire deux mots sur la charia. Il est vrai que quand le chef politique et spirituel du parti majoritaire à donner des instructions, parce que les choses ne se passent pas à l'intérieur de l'ANC quand elles sont vitales et très très importantes, elles sont tranchées ailleurs et les ordres arrivent et le vote va dans le sens que veut ce chef spirituel. Donc quand il a donné des directives pour qu'on ne parle plus, qu'on ne fasse plus référence à la charia, c'est vrai que ça a été un grand soulagement pour nous tous. Mais ce que nous avons constaté quelque temps après, c'est que plusieurs concepts issus et inspirés par la charia essayent aujourd'hui encore d'être introduits par les différentes fenêtres, donc les différents chapitres de cette constitution. Un des chapitres qui, à mon avis, présente le plus de dangers, c'est l'avant-dernier chapitre de la Constitution, qui est l'article 148, et qui dit que, en cas de changement, d'un changement quelconque dans les textes de la Constitution, on peut tout changer, sauf porter atteinte à l'islam. Et ça, on est tout à fait d'accord, sauf qu'ils en profitent pour dire l'islam, religion de l'État. Alors que dans le préambule, on n'arrête pas de nous assurer que nous allons avoir affaire à un État, non pas laïque, parce que ce mot-là est devenu banni de notre vocabulaire, tellement il a été associé au fait d'être païen. Donc il y a eu une utilisation malsaine du mot, et donc on préfère utiliser le mot « civil ». Et je m'en suis rendu compte en voyant une traduction faite comme ça à la va-vite par quelqu'un à la dernière minute en langue française. Donc, c'est à toutes ces subtilités qu'il faut aujourd'hui faire attention, parce que les dangers sont beaucoup plus dans la subtilité et dans l'ambiguïté et dans le double discours du parti majoritaire. Bien. Oui, je voulais aussi parler un peu de la pariété, qui me semble être la chose, un des plus grands acquis d'après la Révolution, et qui a favorisé la présence des femmes à l'ANC, qui aujourd'hui représente 27%. 62 femmes sur 217, comparativement peut-être à d'autres parlements, ça ne semble pas être beaucoup, mais pour la Tunisie, c'était très important. Malheureusement, et comme l'a dit Simone, 43 de ces femmes appartiennent à un même parti majoritaire, mais personnellement, je suis optimiste et je pense que l'image que nous avons toutes donnée, et je le dis avec beaucoup de sincérité, parce que même si la plupart d'entre nous n'ont pas fait de politique avant, nous sommes les fourmis ouvrières de l'ANC. Et les femmes qui sont présidentes, vice-présidentes de commissions, c'est elles aujourd'hui qui font réellement marcher l'ANC. Et je pense que nous sommes en train d'œuvrer à changer les mentalités quant à l'efficacité de la femme quand elle a un rôle politique à jouer, avec peu ou pas d'expérience. Ceci m'amène à parler des prochaines élections, justement, qui aujourd'hui sont l'enjeu peut-être le plus important après la Constitution. C'est la création de cette fameuse haute instance pour les élections que nous sommes en train de mettre sur pied. Et là, je lance un appel aux Tunisiens qui se trouvent dans cette salle ou à ceux qui ont des amis tunisiens pour les encourager d'ici jeudi prochain, le 14, à présenter leur candidature pour faire partie de cette haute instance. Nous avons surtout besoin de cette fameuse pariété, et les femmes, plus que jamais, doivent oser présenter leur candidature. Nous avons besoin de magistrats, d'avocats, de professeurs, mais nous avons aussi besoin de simples citoyens tunisiens vivant à l'étranger pour représenter la communauté tunisienne vivant à l'étranger. C'est très important si nous voulons sortir de ce marasme, de cette période transitoire qui n'arrête pas de durer, puisqu'elle tient non seulement aux travaux de l'ANC, mais aussi à la réussite qui est loin de se concrétiser de ce gouvernement, à la nouvelle reconduction ou recomposition de ce gouvernement que nous attendons depuis au moins 2 mois. Si nous voulons sortir de ce marasme aujourd'hui, c'est surtout en essayant d'organiser de nouvelles élections réellement honnêtes et, comment dit le mot, chafef, ce mot transparente. La transparence, c'est un mot chéri maintenant en Tunisie. Tout le monde en parle, tout le monde en rêve, mais de manière différente. La transparence. J'aimerais aussi dire autre chose à propos, et qu'il ne s'agit pas uniquement d'imposer la parité par des textes de loi, parce que si on est arrivé au nombre de 62 élus, nous avons constaté avec beaucoup de dépit qu'au moment où la Troïka a voulu former son gouvernement, sur 42 ministres, il y a eu une seule femme ministre, et sur une trentaine de secrétaires d'État, il y en a eu deux. Nous ne savons pas aujourd'hui, dans la nouvelle formule, c'est pas qu'on sait pas, on est presque sûr qu'il y en aura pas plus. Il y a de moins en moins de femmes qui occupent des postes, par exemple, de gouverneurs. Il y en a, à l'époque, il y en avait deux, aujourd'hui, il y en a zéro. Et il y a de moins en moins de femmes qui représentent notre diplomatie, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Et quand, pour une fois, nous avons une femme qui est secrétaire d'État en Finlande, nous lui inventons des affaires de mœurs légères pour avoir l'occasion de la renvoyer. Madame Zohra Ladrum est une dame digne de tout respect, que notre ministre qui n'a pas des affaires étrangères, qui lui n'est pas l'exemple parfait de la bonne morale, voire les factures du Hilton, et qui s'est permis de renvoyer cette dame sur la simple médisance de son chauffeur, à distance, sans lui donner la chance de se justifier. Et ça, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, encore une fois, la loi, la Constitution ne suffit pas. Il s'agit de dire stop aux idées réactionnaires et à tous ceux qui veulent nous faire faire une marche arrière. Une dernière chose, j'aimerais rendre devant vous un hommage à la société civile tunisienne, sans laquelle nous, la gauche, l'opposition de l'intérieur de l'ANC, nous n'aurions jamais pu obtenir quoi que ce soit si la société tunisienne n'était pas aussi mobilisée autour de nous et autour des problèmes aigus de la société. Et enfin, j'aimerais vous demander la permission de vous lever et de m'accorder une minute de silence en hommage à la mémoire de mon ami Chokri Belbit. Je vous remercie.
Merci Salma Bakar. Merci d'avoir fait traverser à la fois l'émotion et le respect dans la cause politique. Je pense que c'est un beau moment. Donc vraiment merci. Sur la transparence, je voulais juste dire que nous n'avons pas amené des bouquets de fleurs qui auraient été un peu fanés ou des chocolats belges qui auraient peut-être fondu quand on est allé en Tunisie. Notre cadeau, pour le Parlement, pour la Constituante, était un programme un logiciel, qu'on appelait Temis, un logiciel de suivi des documents parlementaires, et qui est un logiciel assez sympathique, si je peux dire, à utiliser, puisqu'on y met ce qu'on veut. Si vous voulez que ce logiciel suive beaucoup tous les documents parlementaires, les amendements, etc., c'est possible. Et si on veut qu'il fasse un suivi rudimentaire, c'est possible aussi. Je trouvais que c'était important, parce que notre cadeau, si je peux dire, à la constituante, était justement ce logiciel qu'on a acquis à grands frais. Comme on est une petite assemblée de parlement francophone bruxellois, je me disais, il faut vraiment que je puisse l'utiliser, parce que je trouvais que c'était parfois un peu étonnant. Voilà, et donc, comme on venait d'acquérir state of the art, comme on dit, ce logiciel, le parlement francophone bruxellois, on l'a amené à la constituante. Je vois que vous ne l'avez pas encore utilisé. C'est pour ça que je le dis. Parce que tant qu'à faire, ça pourrait être utile, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, où nous n'avons pas la vérité. C'est vraiment un logiciel où on suit tout compte fait, où en sont les travaux. Et je pense que pour la transparence, et aussi pour les journalistes, qui savaient ça, les journalistes tunisiens qu'on a rencontrés, c'était très important pour eux de se dire, mais on pourrait à tout moment savoir où en sont certains amendements sur parfois un détail, une virgule, qui a toute l'importance que vous avez montrée ici, puisque l'interprétation des mots a toute son importance. Donc, merci pour ce respect et cette émotion. Merci. Alors maintenant, nous entendons Madame Hélé Béji, bien connue comme écrivaine, qui a été plusieurs reconnaissances littéraires, prix littéraires, dont celui de l'Afrique méditerranéenne, de l'Association des écrivains de langue française, qui est elle-même professeure de littérature à l'Université de Tunis, qui fonde le Collège international de Tunis, dont elle est la présidente aujourd'hui, et qui a aussi été haut fonctionnaire à l'UNESCO. Madame Hélé Béji, à vous la parole.
Bonjour. Merci, Madame la Présidente, de nous avoir invités. Merci, Simone. Merci aux présents d'être là. Je suis comme Simone, optimiste de nature, mais dans les circonstances actuelles, je vais vous dire que je ne le suis pas. Et je vais vous dire quelles sont mes inquiétudes, parce que je pense que si on analyse de manière lucide les choses, même avec des vérités que l'on croyait justes, mais que, comme dirait le philosophe Max Weber, que la fonction du savant, enfin, de l'homme de savoir, c'est d'examiner les vérités même quand elles nous sont désagréables. C'est ça qui fait la différence avec le politique qui, lui, a d'autres vocations. Je vais peut-être dire des choses désagréables pour moi-même. Et c'est la seule manière, peut-être, de parvenir à surmonter les obstacles qui sont survenus depuis le 14 janvier. Je pense qu'avec la disparition de Chokri Belaïd, qui a été un traumatisme, je peux vous dire, extrêmement profond, mais dont on n'est pas sorti. Je sais que le président de la République vient a dit qu'on avait absorbé ce choc-là. Moi, personnellement, je ne l'ai pas du tout absorbé, je ne l'ai pas digéré. Et il faut qu'on réfléchisse sur ce processus de la violence, non pas de la violence dans la rue ou la petite délinquance, parce que ça, on arrive à la surmonter, mais de l'élimination, de la liquidation politique. Je pense qu'on est rentré dans un nouveau processus dont, effectivement, on disait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Donc, le 6 février, c'est une date maintenant qui est devenue plus importante à mes yeux encore que le 14 janvier, parce qu'elle est exactement une négation du 14 janvier, puisque le 14 janvier a eu lieu pour que les Tunisiens puissent s'exprimer librement. C'est ça qu'on a gagné avec la révolution, au fond. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas gagnées. Le chômage n'a pas diminué, il a augmenté. Des tas de choses n'ont pas. Les gens ne sont pas mieux soignés en un an. Les transports publics sont catastrophiques. Je veux dire, tout ça est. Mais par contre, la liberté d'expression est un acquis. Mais le 6 janvier vient de mettre un déni formel à ce gain, puisque un homme a été tué pour ses idées uniquement. C'est vrai qu'il était sévère. Je crois que les Blades avec le parti représenté majoritairement à l'Assemblée, mais c'était avec sa bouche, c'était avec sa langue. Il faisait pas de mal à une mouche. Hein. Il aurait pas touché les cheveux d'un intégriste. Or, il a été donc assassiné pour cette même liberté qui est advenue avec la Révolution. Et moi, je pense qu'il faut réfléchir quand même à ça. Parce que ça peut continuer. J'espère que non, bien entendu. Alors, je voudrais remonter un tout petit peu, très rapidement, parce que je veux pas être longue, en fait. Après la Révolution, je me souviens très bien qu'il y a eu cette question de la constituante. Alors évidemment, nous avons la chance d'avoir comme constituante Salma Bakar, bien sûr, mais tous les constituants ne sont pas dans l'état d'esprit de Salma Bakar. Et je me souviens que lorsque la volonté générale, entre guillemets, on a fait croire que c'était la volonté générale d'aller vers la constituante, mais ce n'était pas du tout la volonté générale, c'était des phénomènes de rue, c'était une sorte de petite dictature de la rue qui a commencé avec Kasbah 1, puis avec Kasbah 2, qui a imposé l'idée de la constituante par des mécanismes extrêmement opaques. Pour revenir au concept de transparence, pas clair du tout. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a voulu la constituante. Et si vous demandez aux gens, ils vont vous dire « mais non, mais moi je ne voulais pas ». Moi, personnellement, je ne voulais pas de la constituante. Et je me souviens que le jour où tout d'un coup on a découvert que le choix politique, je ne sais pas vraiment jusqu'à présent par quel mécanisme on est arrivé à cette histoire de constituante, parce qu'on avait une très bonne constitution. On avait une excellente constitution qui n'était tout simplement pas appliquée. Mais le texte, bon, il y avait quelques articles qu'il fallait changer, mais on avait une constitution, d'avant-garde, comme disait, révolutionnaire. Et j'ai tout de suite, je me souviens que le jour où la décision de la constituante a été prise, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Bon, je suis insomniaque de nature, mais cette nuit-là, je n'ai vraiment pas dormi du tout. Parce que j'ai compris qu'avec la constituante était en train de se tramer, c'était simple, c'était tellement visible, n'est-ce pas, que était en train de se tramer une remise en question de la constitution séculière ou la constitution civile de l'État tunisien de 1956. Mais c'était tellement évident que je ne comprenais pas. Et là, je dois dire que malheureusement, le mouvement démocratique, dans son ensemble, ne l'a pas vu. Certains démocrates l'ont vu, mais dans son ensemble, le mouvement de la société civile, de la démocratie, croyait que par la constituante, c'était les démocrates qui allaient être élus. Il y a eu cette illusion révolutionnaire que la majorité de la constituante serait composée de gens de gauche, de laïcs, de démocrates. Il y a eu cette illusion, ce mensonge qu'on se faisait que finalement on allait se battre quand même. Eh bien, c'était faux. Déjà, je dirais presque, les dés étaient jetés. Déjà, je me suis dit, on va régresser, on va avoir une constitution pire que celle qu'on a vue. Et j'ai parlé de ça. Hein. Et j'ai été mal accueillie, même chez les démocrates, quand j'ai dit, attention, une nouvelle constitution va nous faire venir avant 1956. On va être projeté à l'époque pré-indépendance. Et après, il faudra regravir tout ça, ça va être un cauchemar. Et maintenant, on est dans ce cauchemar. Il n'est pas du tout sûr. Et je me souviens qu'on s'était réunis en petits groupes, on était extrêmement excités, extrêmement anxieux, et on s'est dit, bon, on va faire un préambule, on va mettre en dehors de la Constitution, parce qu'on avait peur, justement, du vote constitutionnel, on va faire un préambule avec des valeurs sacrées. Et ces valeurs sacrées étaient les valeurs bourguibiennes, de l'égalité des femmes, de la liberté, de la dignité, donc les valeurs révolutionnaires, puisque c'était une révolution non religieuse. Et je me suis dit, si on a une constitution religieuse, au moins, on aura un préambule civil qui va être au-dessus. Vous savez qu'il y a, dans la constitution américaine, il y a trois stades. Il y a la déclaration d'indépendance avec la quête du bonheur, etc. Puis les articles constitutionnels, puis la Bill of Rights, les amendements. Je me suis dit, bon, ben, au moins, on aura un préambule intouchable. Un Coran civil, si vous voulez. Oui, hein, parce que c'est ça, il faut un sacré. Il faut un sacré dans une société. Il n'y a pas de société sans sacré. Donc, il fallait ce sacré-là, mais on ne l'a pas fait. Ce qui fait que je vous dis très franchement que maintenant, on est dans la situation de perdre tout simplement les acquis de l'indépendance. Alors, à tel point que j'ai organisé donc au collège, chez moi, donc avec Mahrzi Al-Abidi, donc la vice-présidente, et un intellectuel tunisien remarquable, un politologue, Mohamed Haden, un débat pour savoir qu'est-ce qui était en train de se tramer dans le texte, dans la rédaction de la Constitution, dont Selma Bakar vous a très bien parlé. Elle se bat avec un acharnement admirable pour ne pas justement qu'on bascule dans une pré, ce que j'appelle la pré-indépendance. Le nom, et maintenant il y est, le mot indépendance nationale ne figurait pas dans le premier texte de la Constitution. Il n'y avait même pas l'indépendance nationale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très clair. Et d'ailleurs, Mohamed Haddad l'a fait remarquer à Mahrzi Al-Abidi, qui prenait des notes. Et on lui a dit, vous devez mettre l'indépendance nationale. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont mise, ils ont fini par la mettre, mais parce que les gens ont dit, mais comment, on a 60 ans, c'est... l'anticolonialisme, ça a existé quelque part, la décolonisation. Bon, pourquoi? Eh bien, parce qu'on est en face, en fait, de deux cultures conflictuelles, que la démocratie, parce que, comme je disais à Simone, la démocratie achevée, pas achevée en Belgique, mais très avancée dans un processus séculier qui a duré, ou en France, deux siècles, etc. Il y a déjà des principes sacrés que tout le monde a intériorisés. Il y a une unanimité de ces principes. Tandis que chez nous, non. Il n'y a pas l'unanimité des principes constitutionnels sacrés. Il y a deux sacrés, le sacré civil et le sacré religieux, qui sont en conflit aujourd'hui à l'intérieur de la Constitution, dont on ne peut pas dire que le sacré civil va l'emporter, c'est pas vrai? Moi, je ne suis pas du tout sûre que le sacré civil l'emporte. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps. C'est ce que j'appelle la pédagogie de l'État bourguibien, qui, pendant des années, a essayé d'intérioriser, faire intérioriser par la société, par des méthodes autocratiques. C'est vrai. Le code du statut personnel des femmes, c'est une loi, entre guillemets, autocratique. Mais c'est une loi autocratique révolutionnaire, faite par un homme qui avait une pensée anticipatrice et qui a imposé, du jour au lendemain, une loi égale pour tous. Ça s'est fait par ce que j'appelle la puissance publique, qui est très importante pour faire intérioriser les principes aux gens. Eh bien, cette puissance publique, aujourd'hui, n'est plus en mesure d'imposer. C'est-à-dire, c'est quoi? Il n'y a pas de droit de l'homme, si vous voulez, il n'y a pas de droit des femmes ni de droit de l'homme sans loi, moi je crois. Or, l'esprit de la loi, quand les représentants de la loi ne veulent pas appliquer la loi, mais n'ont pas la même conception de la loi, eh bien la loi...